J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Vendredi 3 juin 2022, ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de Cheese 94.3 à Québec et de CFAC 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver pour cette semaine à nouveau. Et on passe avec petite nouvelle insolite. On peut dire ça comme ça. Ben, c'était solide, oui. On fait pas ça tous les semaines. En tout cas, on l'espère pour eux autres que ça se passe pas tous les semaines. Du côté de Paris, qui a eu une grosse surprise, on va dire ça comme ça. Et heureusement qu'elle est protégée. Parce que ça aurait pu être quand même assez particulier si ça avait pas été le cas. Puisque à Paris, au musée du Louvre, on peut y voir la Joconde. Célèbre peinture qui n'a plus besoin de présentation. Et ça aurait pu mal virer, puisque la Joconde a été entartée au début de la semaine. Selon plusieurs photos et témoignages sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram, par des visiteurs qui se trouvaient dans le plus grand musée du monde au moment des faits. Les images montrent la vide de protection du portrait au sourire énigmatique maculé d'une substance blanchâtre que nettoie un homme semblant être vigile du musée. Auparavant déguisé avec une perruque et une casquette, un homme âgé de 36 ans a simulé une situation de handicap pour disposer d'un fauteuil roulant et s'approcher de l'œuvre installée dans une vitrine sécurisée de la salle. Selon l'agence France-Presse, selon ce que le Louvre a rapporté à l'agence France-Presse. Il a ensuite lancé sur une vitre une pâtisserie qu'il avait dissimulée dans ses effets personnels. Et moi, c'est surtout ça la question que je me pose. C'est comment qu'il a réussi à transporter une tarte à la crème dans le musée et qu'elle soit à peu près intacte pour être capable de la pitcher. Parce que tu peux pas juste amener quelque chose de liquide comme si de rien n'était. Et surtout qu'au musée du Louvre, il y a quand même des dispositifs de sécurité. Tu sais, tu rentres pas au musée du Louvre. J'allais dire ironiquement, on rentre pas dans un musée. On rentre pas au musée du Louvre comme on rentre dans un musée. C'est pas mal le musée. Mais tu sais, on rentre pas si facilement que ça. Puis, me semble, c'est pas ça l'expression non plus. Mais en tout cas, on rentre pas si facilement que ça au musée du Louvre. Et on rentre pas rapidement non plus au musée du Louvre. Fait qu'il y a le temps que cette tarte à la crème fonde. Fait que tu sais, c'est peut-être pas de la crème finalement. Ce qui n'a eu évidemment aucune conséquence sur le tableau et aucun dommage. Parce que la Joconde est quand même assez petite, de 1, et derrière une grosse vitre avec un cordon également pour protéger. Fait que tu sais, on la voit d'un peu loin quand même, la Joconde. Je parle en connaissance de cause, j'y étais il y a 3 ans, juste avant la pandémie. L'année avant la pandémie, je devrais plutôt dire. La Joconde peinte par Léonard da Vinci est présentée depuis 2005 derrière une... Bon voilà, depuis 2005, derrière une vitre blindée, protégée par un caisson spécial où l'humidité et la température sont contrôlées. Je veux pas, c'était... Ça peut pas être laissé lousse comme certaines autres toiles. Juste pour le fun, le film du Da Vinci Code est sorti en 2006. Fait que c'est pas à cause de ça. Mon hypothèse était que à cause du film, on a décidé de renforcer la sécurité. Mais non, quoique le livre, quant à lui, est peut-être sorti avant ça. Mais en tout cas, le film en tant que tel est sorti en 2006. Fait que c'est pas directement lié. Quand même, l'homme a été immédiatement saisi, évacué par les agents d'accueil et de surveillance, puis remis à la police. Il a ensuite été admis à l'infirmerie psychiatrique. Et une enquête a été ouverte pour tentative de dégradation d'un bien culturel, selon le parquet de Paris. Le musée du Louvre a annoncé avoir déposé plainte. Évidemment, on va s'en dire. Il assure avoir appliqué ses procédures habituelles prévues pour les personnes à mobilité réduite, leur permettant d'admirer cette œuvre majeure de plus près. Ah! Parce qu'évidemment, en chaise roulante, si on se ramasse dans le tas de monde, évidemment, on verra pas grand-chose. Donc probablement que grâce à sa chaise roulante, il a pu s'approcher au premier rang de la Joconde, mais ça reste quand même particulier. Pour la petite histoire, le roman de Dan Brown est sorti en 2003. Donc quand même, il y a quand même un 2 ans entre la vitre qui a été posée pour la Joconde. Mais je me souviens avoir déjà lu par le passé que justement, le fait que, l'air environnant, que les éléments font en sorte que les tableaux, évidemment, dépérissent avec le temps. Donc pour protéger la Joconde en tant que telle, on l'a mis derrière une vitre. Ça, je savais pas que c'était à cause de tout ça, mais que d'avec les multiples recherches qui se font année après année sur la Joconde pour savoir le niveau de peinture, la couleur exactement. On fait des analyses extrêmement poussées sur cette toile-là particulièrement. Donc, ça fait en sorte qu'on prend pas de chance pour la garder le plus intacte possible. Parmi les utilisateurs de Twitter qui ont témoigné de cet incident, l'un d'entre eux a publié une vidéo dans laquelle on voit l'homme en question vêtu de blanc, debout à côté de son fauteuil, roulant et escorté par la sortie de sécurité. Juste pour le fun, on voit pas. OK, hey, c'est peut-être pas de la crème, parce que quelqu'un a essayé de passer un mouchoir, puis ça l'a plus étendu que d'autres choses. Fait que c'est peut-être. Mais en même temps, c'est tendu pour vrai. Fait que si tu la portes à dedans, En tout cas, les gens qui étaient là sont des photos exclusives de la Joconde. Parce que ça, il y a peu de gens qui vont pouvoir se vanter d'avoir vécu l'entartage de la Joconde. Sur d'autres images, on voit le fauteuil roulant placé derrière le cordon de sécurité que les visiteurs ne doivent normalement pas dépasser. Aucune photo ou vidéo n'ont capté le lancer en tant que tel. On parle d'un gâteau, peut-être d'une tarte. Ce bout-là n'est pas clair. Ce n'est pas la première fois que la Joconde aurait été victime de vandalisme. En août 2009, une visiteuse russe avait été interpellée après avoir lancé une tasse à thé vide en direction de la Joconde. Donc, elle a garoché une tasse, j'ose croire. Le musée avait alors expliqué que la tasse s'était brisée contre la vitrine blindée, ce qui avait été légèrement éraflé. Donc, quand même, il y avait eu... En fait, liquide ou non, lancer quelque chose sur la Joconde, ça aurait... En fait, une tasse qui se brise, ça peut la briser en tant que telle. Fait que quand même... En décembre 1956, un Bolivien menacé d'expulsion avait lancé une roche sur la Joconde qui avait endommagé le coude gauche de celle-ci. Et c'est après cela qu'elle avait été placée une première fois derrière une vitrine sécurisée. Donc quand même, en 1956, le premier incident majeur pour dégrader la toile. Le portrait qui a probablement été commencé à Florence vers 1503 serait celui de Lisa Geraldini, épouse de Francesco del Giocondo, marchand d'étoffes florentin dont le nom féminisé lui a valu le surnom de Gioconda. Donc, Lisa Giraldi dit Gioconda, la Joconde, par dérivée sur 500 ans de son nom. Le chef-d'œuvre voit défiler chaque année au musée du Louvre qui compte 37 000 autres œuvres. Et probablement que là-dedans, il y en a à peine 1000 qui sont réellement vus par l'ensemble de ces gens-là parce que tout le monde se garoche pour aller voir la Joconde. Des millions de personnes, 10 millions avant la COVID, faisaient le tour du musée du Louvre. Son vol en 1911 au Louvre par un ouvrier italien participa grandement à sa notoriété. Il l'avait conservé quand même quelques années. Sauf erreur, le vol en 1911 de la Joconde, c'est le 21 août 1911 que lors de ses rondes, gardien du Louvre constate la disparition de la toile de Léonard de Vinci. Le 21 août au soir, je gagerais. L'affaire est si grave que les autorités renforcent le contrôle aux frontières. Les soupçons portent d'abord sur le poète Guillaume Apollinaire. Je reste à Saint-Apollinaire, c'est malade. Le poète Guillaume Apollinaire, mis en cause quelques années plus tôt dans le vol de statuettes hébraïques que son ami Géry Pierret avait revendu à Picasso. Apollinaire est emprisonné à la santé du 7 au 11 septembre 1911 avant d'être blanchi. Donc, le principal suspect n'est finalement pas la bonne personne. Deux ans durant, la presse internationale spécule sur l'affaire, l'incroyable histoire de la disparition de la Mona Lisa. La revue L'Illustration promet 50 000 francs pour qui rapporterait le tableau dans les locaux du journal. C'est un peu drôle. L'écrivain italien Gabriel Danudino revendique le forfait au nom de son nationalisme italien. Il n'est pas pris au sérieux. Parce qu'évidemment, la question demeure pourquoi la plus célèbre toile d'Italie est exposée en France. La question demeure quand même. Pourtant, le mobile était le bon. Le voleur était un ouvrier italien nommé Vincenzo Perugia qui travaillait au Louvre. Il conserva le tableau pendant 2 ans. Ah, c'est ça l'histoire. Il conserve le tableau pendant 2 ans caché dans sa chambre avant de le proposer contre 500 000 lire à Alfredo Geri, un antiquaire florentin. Ce dernier examina le tableau le 11 décembre 1913, donc quelques 2 ans et quelques mois plus tard, en compagnie d'un ami, Giovanni Poggi, ou Poggi, directeur du musée des offices, et ils prévinrent la police. Ce n'est que le 13 décembre 1913 que le New York Times publiait la déposition de Perugia. Souvent, pendant que je travaillais au Louvre, je m'arrêtais devant la peinture de Da Vinci et j'étais humilié de la voir ainsi en terre étrangère. La stabiliser fut très simple. Je n'avais qu'à choisir le moment opportun. Un matin, j'ai rejoint mes camarades décorateurs au Louvre. J'ai échangé quelques mots avec eux. Puis je suis entré dans le salon où la peinture était accrochée. Il était désert. Donc, je disais au soir, mais finalement, c'est au matin. La peinture souriait devant moi et en un instant, je l'avais décroché du mur. J'ai déposé le cadre dans l'escalier et glissé le panneau sous ma blouse. Tout s'est fait en quelques secondes. Personne ne m'a vu, personne ne m'a suspecté. Tenant compte de ses intentions patriotiques, le tribunal condamna Perugia à 1 an et 15 jours de prison, peine qu'il n'accomplit pas dans sa totalité puisque le 4 janvier 1914, la Joconde, en fait, ça n'a aucun lien, mais en tout cas, condamna Perugia à 1 an et 15 jours de prison, peine qu'il n'accomplit pas dans sa totalité, point. Le 4 janvier 1914, la Joconde retrouverait le Louvre sous une étroite surveillance à partir de ce moment-là. Il faudra quand même attendre un autre 40 ans avant qu'on mette une vitre protectrice dessus et qu'on attende un autre 50 ans avant que ça soit pour tempérer et qu'on garde pratiquement pressurisé la Joconde depuis les années 2000-2005, année juste avant que l'on sorte le film basé sur le roman de Dan Brown, Da Vinci Code, qui mettait en vedette notamment la Joconde dans un bout quand même assez important du film, ceci dit. Et c'est un peu ça qui est drôle, c'est que le film, c'est pas celui-là, mais le troisième volet passait à la télé samedi soir, et puis ça a fait en sorte que c'est le genre de film dans lequel on s'accroche les pieds et qu'on fait juste le regarder parce qu'il passe à TV. Un autre dans ce genre-là, Interstellar, qui passait avec Matthew McConaughey, qui passait à la TV en fin de semaine. Puis peu importe ce qu'on est rendu dans ce film-là, on l'écoute, puis that's it. Fait que c'est juste ce genre de film-là qu'on n'hésite pas à réécouter une fois de temps en temps. Da Vinci Code, une fois de temps en temps, c'est le fun aussi. On débute l'émission cette semaine avec N'accordez pas vos guitares ce soir, des lunatiques sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Service pour aller en jeu vidéo cette fois-ci, puisqu'il y a eu Il y a eu un dévoilement cette semaine. En fait, on a décidé de présenter de nouvelles fonctions, ou en tout cas, semble-t-il, de nouvelles fonctions pour le prochain volet des Pokémon qui sortira officiellement cet automne, juste à temps pour Noël, que sans aucun scrupule et sans aucun hasard, le 18 novembre 2022. Donc officiellement, Scarlet et Violet sont les prochains volets de la série. Le tout devrait se passer à ce qui ressemble à être l'Espagne. Donc, il y a une thématique un peu plus espagnole, ne serait-ce que dans le nom de certains Pokémon. Ils auront des consonances espagnoles, ce qui fait en sorte que les traducteurs espagnols n'auront presque pas de job cette fois-ci, au sens où ils auront déjà pratiquement leur nom, déjà de tous déjà un peu choisis. Évidemment, comme à l'annonce de Épée et Bouclier, on a présenté quelques-uns des nouveaux Pokémon au courant de la nouvelle vidéo. On avait déjà les starters, donc les trois premiers Pokémon. On en retrouve, ou plutôt, on en rajoute trois autres, soit Smoliv, Olivini, Palmy, ou Pomme en français, P-O-H-M, et celui qui a évidemment retenu l'attention, le Chonk, ou Gourmelet, qui est un Pokémon pourceau. Ça prend toujours une petite vedette dans ce genre de trailer-là, dans ce genre de bande-annonce-là. Il y avait Moumouton, Wooloo, lorsque Épée et Bouclier est sorti. Cette fois-ci, évidemment, c'est le Chonk qui a ravi les internautes et les gens qui se sont amusés à faire des vidéos, à faire des images de le Chonk. Donc, rejoignent Spirigatito, Poussacha, Fuecoco, Chocodile et Quaxly, Coiffeton. Parce que c'est un canton avec une coiffe. Coiffeton. Les Français, hein, ils sont toujours bons pour ça. Et ce qui me faisait rire également, c'est que Palmy ou Pomme ressemble étrangement au petit personnage dans Kirby. Fait que là-dessus, ils ont manqué un petit peu d'originalité entre les deux franchises. Mais sinon, évidemment, ce qui retenait l'attention, c'était les boîtiers. Donc, on a mis en valeur, finalement, les deux prochains Pokémon légendaires qui seront en vedette pour Scarlet et Violet. Quel beau lapsus. Donc, Coraidon et Miraidon. Anglais, français, espagnol, ce sera le même nom. Donc, Coraidon, Miraidon. Ça sonne aussi bien en espagnol. Deux Pokémon lézards, serpents, qui ont direct c'est des motos, mais ce sont des lézards et des serpents. L'un est rouge, l'un est violet, l'un est scarlet, l'autre est violet. Voilà pour les nouveaux Pokémon en tant que tels. Et sinon, ben, on dévoilait évidemment un peu plus d'images du jeu en tant que tel. Rien à se pitcher dans les murs non plus. On retrouve à peu près la qualité de dessin, d'animation qu'on avait pour Scarlet et Violet, c'est-à-dire Épée et Bouclier. On retrouve un peu d'Arceus au travers de ça. Donc, c'est pas les graphiques à tout casser, mais il y a quand même un petit certain truc. Les Pokémon semblent être grandeur nature également, dans le sens où ils sont pas réduits, ils sont de taille réelle pour ceux qu'on a croisés dans le décor. Il n'y a pas évidemment d'annonce non plus pour les Pokémon qui vont être modifiés pour la région en tant que telle. Semble-t-il qu'il y aurait une fonction ajoutée pour jouer à plusieurs, donc pour jouer à quatre personnes en simultané, ou en tout cas, on est capable de se promener dans l'univers avec ses amis. Donc, pour ceux qui jouent connectés, ils vont pouvoir découvrir l'univers avec d'autres joueurs à ses côtés. Donc, c'est quand même une nouveauté si c'est vraiment joué comme ça ou si c'est seulement esthétique comme pour Épée et Bouclier. Ça sera à déterminer si c'est vraiment l'un ou l'autre. Nouveauté également, et qui est quand même particulier, c'est qu'il y aura deux professeurs plutôt que d'avoir le même pour les deux aventures. Il y aura un professeur dans chacune dans chacune des versions. Donc, professeur Sada, qui est une professeure féminine qui se retrouvera du côté de, on imagine, Scarlett, puisqu'elle porte des vêtements qui sont un peu orange, et le professeur Turo, qui est un homme du côté de Violet, ne serait-ce que son kit sous son sarrau ressemble au Pokémon légendaire. Et évidemment, ben le fan art, le dessin des amateurs est déjà fait pour les deux professeurs. La rivale est également présentée, donc la rivale du personnage principal est mise en valeur. On parle des nouvelles technologies, mais on parle également du passé. Donc, passé et futur, entre guillemets, vont se côtoyer. Ça débute, hein. Fait que c'est vraiment les toutes premières images. On voit un monde enneigé, donc on va aller se promener en montagne, évidemment, et on a dévoilé, bon, les premières images des deux Pokémon légendaires, les deux livres de Scarlet et Violet qui ont été officiellement dévoilés. Donc, les bandes annonces sont maintenant disponibles. Un 3 minutes qui a été officialisé par la chaîne Nintendo et par la chaîne Pokémon, évidemment, dans toutes les langues, puisque lorsque la bande-annonce sort dans une des langues, elle sort également dans toutes les autres. Donc, oui, il y aura peut-être une narration en anglais, mais les images pour les différentes chaînes seront adaptées selon les différents marchés, parce que, sans surprise, il y a des variantes régionales pour tous ces jeux-là, évidemment. Ça devient encore plus évident lorsque on est en monde connecté comme aujourd'hui, ce qui fait en sorte qu'on peut être au Québec et quand même vouloir jouer avec la version anglaise ou la version française, contrairement à la belle époque où on achetait le boîtier dans une langue et il fallait vérifier que le jeu était bien dans cette langue-là lorsqu'on l'achetait. Aujourd'hui, ben, on peut jouer en espagnol, en allemand, en français, en anglais, comme on le souhaite. Ce qui est quand même particulier, parce que ça a quand même pris énormément d'années avant de pouvoir jouer à certaines franchises dans notre propre langue, parce qu'on avait seulement le marché anglophone en étant au Canada, au Québec, en étant au Canada, en Amérique du Nord, j'ai envie de dire, plutôt. Mais maintenant, on a ce souci-là de pouvoir le permettre dans toutes les versions que l'on souhaite, que le jeu est disponible, donc on peut l'avoir dans la version que l'on veut. Et dire que ça a déjà été des débats à l'Assemblée nationale de donner du contenu en français. Et à cette heure, ben, on fait du français sauvage et on donne pas le goût aux gens d'apprendre la langue parce qu'on leur impose de parler français dans les 6 prochains mois. Sinon, c'est terminé. Vous êtes pas des bons Québécois. Parce que vous parlez pas français chez vous. Hein? Projet de loi 96. On va s'arrêter là-dessus. On pourrait revenir... En même temps, ça ne me tente pas ben de revenir sur le projet de loi 96 parce que c'est n'importe quoi, évidemment. On s'arrête quelques instants au retour. On va parler politique quand même. Peut-être pas du projet de loi 96, mais pour rajouter au cynisme, Bernard Drainville revient en politique et ce sera pour la CAQ en remplacement de François Paradis de TVAndirect.com. On aura Bernard Landry de FM 98.5 qui deviendra le prochain député de Lévis. Ici, dans la région de Québec, on s'arrête quelques instants au retour. La suite du deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tous les lundis,
sur les ondes de Chiz,
à 13h, c'est Écoute locale, la playlist.
Ben non, c'est les entrevues.
Mais non, c'est une playlist.
On s'est dit 13h, les entrevues.
Mais c'est moi qui l'anime, là, je le sais, je monte ça, là, je fais une sélection des artistes, là, puis tout le monde qui... C'est...
Et fais-la donc toute seule dans l'émission.
Bon, OK. Un lundi sur deux à 13h, je vous présente ma sélection des dernières sorties musicales de la Ville de Québec.
Un lundi sur deux à 13h, je reçois un artiste de la scène locale de la Ville de Québec pour jaser de musique. Avec Guillaume Pepin,
Émilie Rioux, Écoute locale sur les ondes de Chiz 94.3. Bon, t'es-tu contente, là?
Oui.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Seul card, Stivari,
c'est la mort of a mole a lot. The munch paint pour un marathon. The munch gaspille points a gong. The mort of a chant et le monde. I've been wasting so much time.
Demain, du petit Béliveau qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz 94.3 de CFAC 88.3. Je l'ai parlé un peu en riant tantôt, mais c'est quand même ce qui se passe en ce moment. Hier, en fin de journée, on apprenait que Bernard Drainville allait officiellement quitter le FM 98.5 du côté de Montréal, où il était animateur depuis un bon moment. Donc, il a été notamment également co-animateur ici dans la région d'Éric Duhem au FM 93 avant de s'en aller à Montréal à être le midi, Drainville, ou en début d'avant-midi. En tout cas, il était à la radio de Montréal, à Cogeco. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il annonce officiellement qu'il ne sera plus à l'antenne de la station puisqu'il revient en politique. Et sans surprise, en fait, avec une énorme surprise, parce que soudainement, il n'est plus séparatiste, il est devenu nationaliste, comme se targue François Legault depuis plusieurs semaines maintenant, puisqu'il représentera les couleurs de la coalition Avenir Québec dans la région de Lévis, ou dans le comté de Lévis. Mais là, la question s'est posée, il se passe quoi avec le président de l'Assemblée, François Paradis, député de Lévis, depuis qu'il s'est présenté en politique, ça fait son deuxième mandat en ce moment? Ben, câline, François Paradis s'en va. Il va fait que Bernard Drinville ne vient pas tasser François Paradis, ou en tout cas, on l'a invité à prendre sa retraite déjà, j'imagine, je sais pas. Mais François Paradis, ce matin, a officialisé qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat et que, maintenant, la place de Bernard Drinville est assurée dans le comté de Lévis, du moins pour l'instant. Il ne s'agit effectivement pas d'une nouvelle carrière pour Bernard, bon, qui a déjà passé 10 ans à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti québécois, qui a été élu pour la première fois en 2007 sous André Boisclair. Il a été ministre grâce à Pauline Marois et il a également tué le Parti québécois grâce à la Charte des valeurs québécoises sur la laïcité de l'État en 2013, puisque des élections ont été déclenchées et le Parti québécois ne s'en est jamais remis. À preuve, Pascal Bérubé sera le seul député en chambre aux prochaines élections en octobre. Et ça fait également en sorte que le principal intéressé, Pascal Bérubé, s'est un peu interrogé sur cette nouvelle vocation-là que, soudainement, son ancien chumé Bernard s'est trouvé. Il a posé deux questions en étant devant les journalistes. Depuis quand sait-il qu'il sera candidat de la CAQ? Et quand a-t-il commencé à négocier avec la CAQ? Puisqu'il s'est interrogé également sur le fait que ses chroniques au 98.5 le matin avec Paul Arcan, c'est drôle, mais il n'était pas très, très critique envers la CAQ quand il faisait ses petites capsules pour picosser les libéraux, picosser le PQ, picosser le QS, mais jamais remettre en question tant que ça la coalition Avenir Québec au pouvoir. Fait que tu sais, Pascal Bérubé pose la question, depuis quand il sait qu'il va s'en aller remplacer François Paradis dans Lévis et que par hasard, il était pas trop critique de la CAQ en étant techniquement un animateur de radio. La question se pose. J'affirme sans aucune ambiguïté qu'il a été complaisant, qu'il s'est toujours préservé d'attaquer directement la CAQ depuis plusieurs années et qu'il a été particulièrement dur sur des pécadilles parfois sur le PQ et d'autres formations politiques. Donc, à quel point il savait qu'il allait être le backup de François Paradis s'il ne voulait pas se représenter, de un, et à quel point ça a un petit peu teinté son analyse politique lorsqu'il était chroniqueur. La question s'est posée. Pour le député libéral de La Fontaine, Marc Tanguay, le fait que Drinville se reconnaît au sein d'un parti politique de François Legault révèle le vrai visage de la CAQ. Ce n'est pas d'hier qu'on dénonce le fait que François Legault gouverne comme un péquiste. Alors, c'est Marc Tanguay en mallet de presse. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant que Bernard Drinville, un péquiste pur et dur normalement, se présente avec la coalition Né Québec, ben ça a donné ne serait-ce qu'un peu de munitions pour le Parti libéral de dire « Regardez, François Legault veut faire l'indépendance. » Ce qui fait dire également à Paul Saint-Pierre Plamondon de son côté, avant l'annonce de Bernard Drinville, là, je veux pas tout mélanger, mais avant l'annonce de Bernard Drinville, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est sorti en disant « Ouais, mais là, tout ce rapatriement de pouvoir-là que François Legault veut, ça serait beaucoup plus simple si on était un pays indépendant. On aurait tous ces pouvoirs-là sans demander la permission à Justin Trudeau. » Là-dessus, sur le fait que Bernard Drinville se présente maintenant sous la bannière de la Coalition d'Avenir Québec. Paul Saint-Pierre Blamondon, questionné en entrevue du côté de Radio-Canada ce matin à Montréal, on lui souhaite bonne chance en prenant soin d'ajouter que ce sera à lui d'expliquer son attrait soudain pour le fédéralisme ou pour le pouvoir. Parce qu'évidemment, en se faisant élire sous la bannière caquiste, qui plus est dans la région de Québec, dans la région de Lévis en plus, c'est de lui redonner un siège à l'Assemblée nationale de facto. À moins que les gens de Lévis voient soudainement un attrait pour quelqu'un d'autre. En ce moment, c'est assez gagné d'avance pour Bernard Drinville. Si je vais chercher rapidement la circonscription de Lévis, c'est à 50% pour la CAQ. Le plus proche, c'est les conservateurs, le Parti d'Éric à 32. Et sinon, en troisième position, c'est QS avec 8%. Fait que c'est pas du tout serré dans Lévis. C'est la CAQ facilement, rapidement. En 2018, c'était 57,3. Aujourd'hui, la projection est à 50. Fait que c'est encore extrêmement bon. Le plus proche compétiteur en 2014, c'était les libéraux à 34,9 contre 40 à la CAQ. En 2018, ça avait fondu à 14 et aujourd'hui, on parle d'à peine 4%. Fait que les libéraux, qui étaient le plus proche compétiteur il y a deux élections, n'est même plus dans la course en étant avant-dernier devant le Parti vert. Donc, c'est vraiment maintenant une lutte entre la coalition et le Parti conservateur. Mais encore une fois, Bernard Drinville était pas si haï que ça du monde. En tout cas, me semble, était pas si haï que ça du monde lorsqu'il était à sa dernière élection. Même, il avait été élu malgré la Charte des valeurs. Si on va voir rapidement, il était député de la circonscription de Marie-Victorin que Catherine Fournier avait récupéré après une partielle en 2016. Donc, il se présentait dans Longueuil, mais il a quand même été député péquiste dans un château fort péquiste de 2007 à 2016. Succédant à Cécile Vermette qui était députée de 85 à 2007. Fac. Il a été là avec une assez bonne majorité dans Longueuil. 11 000 la première, à 2014, donc malgré le projet de loi. En 2012, il avait battu le petit Simon Jolin Barrette. Ça, c'est drôle. En 2012, Bernard Drinville avait battu Simon. Ah ben ça, c'est drôle. Simon qui s'était présenté dans Marie-Victorin puis qu'il n'avait pas eu avant de se présenter contre Pierre Duchesne. Donc, Bernard, ancien journaliste de Radcan, avait battu le petit Simon la première fois, mais n'a pas réussi à... Ben, Pierre Duchesne n'avait pas réussi en 2014 à battre Simon. Ah ben ça, c'est drôle, par exemple. Ça, c'est dans Bordua. Toujours dans le coin de Montréal. Pierre Curzi, qui s'était présenté dans Bordua, s'était fait succéder par Pierre Duchesne et qui a été remplacé par Simon Jolin depuis. Ah ben, ça, c'est drôle. En Montérégie, Berville et Verchères, surtout. Je l'ignorais. Je l'apprends en même temps. Donc, Bernard Drinville, voilà, qui fait son retour en politique et qui sera député de Lévis à la prochaine élection, à moins d'un revirement de situation écœurant et qui ferait en sorte que ce serait mourant de rire, qu'on serait crampé si jamais on mettait un candidat vedette, quelle qu'elle soit, de... Non, non, ils ont déjà annoncé c'était qui la personne de Lévis pour Éric Duhaime. Mais quand même, ça reste assez drôle. On sera quelques instants au retour. La conclusion de l'émission de cette semaine. Jérôme 50 avec Embrasse-moi, me semble que c'est Ariane Roy qui est avec elle, qui est avec lui sur cette chanson-là. Au retour, la conclusion de l'émission sur les ondes de Chiz 94.3 et le CFAC 88.3.
Jamais un homme n'avait autant désiré une femme. Tu étais là, tout près de moi, sur la piste de danse. Tant d'années à boire ma peine, comme les rues d'Amsterdam. Tes yeux bruns m'ont pointé du doigt, et j'ai tenté ma chance. Tu m'as dit,
t'en fais pas, on est dans une chanson. Et l'auteur a besoin d'inspiration.
C'était bien Ariane Roy avec Jérôme 50 pour Embrasse-moi sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAC 88.3. Rapidement, j'ai confirmé l'information. Donc, on apprenait, c'était mimé que, bon, on avait le nom de la selle qui représenterait Éric Duhaime dans Lévis. Il s'agit d'une ex-conseillère municipale de Gilles Le Houillier, de l'équipe Le Houillier, qui représentera le Parti conservateur dans Lévis le 3 octobre. Il s'agit de Karine Laflamme, qui est directrice générale de Novicom, une entreprise de technologie sans fil créée par son père et regroupée au groupe CLR en 2019. Donc, de 2017 à 2021, elle a été élue comme conseillère à la ville de Lévis pour le quartier Taniata et elle était membre de Lévis Force 10, le parti du maire Gilles Louillet. La candidate est pour... voilà. C'est pas mal tout. Donc... donc ça veut dire qu'elle a été défaite en 2021 pour le quartier Taniata. J'aurais dû vérifier cette information-là aussi. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, avec bon tout ça, bonne chance en tout cas à Mme Laflamme d'affronter maintenant Bernard Drainville du côté de Lévis. On verra bien ce que ça va faire. Rapidement, quelques nouvelles qui ont fait sourire cette semaine, qui restent dans le domaine technologique. On y revient. On est un peu pêle-mêle, mais on y revient quand même. Notamment, c'est une vidéo qui a circulé un peu sur les réseaux sociaux, mais c'était quand même comique, puisque techniquement, la Nintendo Switch a une date de fin. Au sens où on peut voyager dans le temps avec certains jeux, notamment Animal Crossing, où on peut aller fêter le nouvel an de à peu près n'importe quelle année, pour le fun de, et on peut le faire également en modifiant l'heure et la date de sa Nintendo Switch. Sauf qu'à un moment donné, la Nintendo Switch, elle a une date limite. Et c'est ça qui est un peu drôle, qu'un appareil technologique a une date limite, mais elle a aussi une date de début, qui est notamment 16 ans avant la création de la Nintendo Switch, puisque la date de base de Nintendo, on peut la mettre au 1er janvier 2000. Mais évidemment, 1er janvier 2000, la Nintendo Switch sortie en 2016-2017, elle n'existait pas. Donc, on peut aller à une date antérieure à l'invention de la Nintendo Switch, donc à l'invention des jeux de la Nintendo Switch. Mais on peut se rendre jusqu'au 31 décembre 2060. Et que se passe-t-il après? C'était surtout ça la question que l'on tentait d'explorer. Que se passe-t-il après le 31 décembre 2060 avec sa Nintendo Switch? Le jeu Animal Crossing a été le moyen de découvrir ce qui se passait après le 31 décembre, puisque un cycle d'une journée dans ce jeu-là, c'est de 5 heures le matin à 5 heures le lendemain matin. Donc, pour le jeu de l'Animal Crossing, on a pu jouer après le 31 décembre 2060, donc le 1er janvier 2061, jusqu'à 5 heures du matin. 5 heures du matin, on a les annonces de Mary, donc de Isabelle, qui nous dit « Passez une belle journée en ce nouvel an. » Et le jeu s'arrête en disant « Vous ne pouvez pas jouer au-delà du 31 décembre 2060. Vous devez choisir une date entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2060. » Donc, pour l'instant, si quelqu'un décide d'ouvrir sa Nintendo Switch en 2060, donc dans 38 ans, avec sa console rétro, parce que ça va être rétro en 2060, surtout si la Nintendo Switch marche encore en 2060, elle a été extrêmement bien conservée. En fait, ne serait-ce que de jouer au 64 en 2060, ça va être assez extraordinaire. Donc, ça fait en sorte que techniquement, aujourd'hui, en 2022, il ne serait plus possible de jouer à la console en temps réel passé 2060, quoique il va peut-être y avoir des patchs de la Nintendo Switch d'ici là, en tout cas on l'espère d'ici les 30 prochaines années, qu'on va régler le problème d'aller au-delà de 2060. Mais ça fait quand même sourire, c'est quand même l'idée qu'il y a une fin à la Nintendo Switch, et quand on arrive à cette fin-là, ben, il n'y a plus rien. C'est terminé. Évidemment, d'ici là, Nintendo a la possibilité de sortir d'autres consoles, mais il y a quand même cette rumeur-là qui persiste qu'il n'y aura rien d'autre après la Nintendo Switch. Reste à voir. reste à voir. Est-ce qu'on va être à la Nintendo Switch 5 ou 10 avec d'autres fonctions et de la 75K? Sait-on jamais. Sinon, une nouvelle un petit peu inquiétante, mais en tout cas, elle est pas si inquiétante que ça si vous l'aviez bien configurée, quoique, ça veut pas dire. Mais on a appris cette semaine que l'application mobile de Tim Hortons pour notamment dérouler le rebord depuis la COVID fait en sorte que, sans que vous le sachiez, l'application Tim Hortons avait accès à votre position géographique. Donc, si vous utilisiez l'application, évidemment, on vous dit où est le Tim Hortons le plus proche, où vous pouvez commander votre petit matin. Mais ça disait également, lorsque l'application était fermée, que si, par exemple, vous étiez dans un centre d'achat, si vous étiez à votre travail, chez vous, ou dans une autre chaîne concurrente, ben techniquement, l'application Tim Hortons avait accès à cette information-là. Donc, en se connectant, sans que vous le sachiez, en background d'application, ben, elle pouvait savoir où vous étiez en temps réel. Donc, pourquoi vous n'étiez pas au Tim Hortons cette journée-là et que vous étiez plutôt chez McDo ou chez Burger King ou whatever où? Et bien évidemment, c'est illégal. on n'a pas le droit. Normalement, lorsqu'on ouvre l'application, on peut lui dire tu as le droit de regarder ma position géographique lorsque j'ouvre l'application. Mais techniquement, on pouvait accéder à votre position géographique même si vous cochiez la case uniquement en utilisant cette application ou ne pas suivre ma position géographique. Donc, elle outrepassait cette restriction-là qu'on pouvait lui donner et accédait quand même à nos données de géolocalisation, ce qui est évidemment totalement illégal. Les personnes qui avaient téléchargé l'application avant le début de l'enquête, soit en 2020, ont vu leur déplacement suivi et enregistré à quelques minutes d'intervalle, même lorsque l'application n'était pas ouverte, ce qui contrevient aux lois canadiennes de la protection des renseignements personnels. Tim Hortons est allé beaucoup trop loin en amassant une très grande quantité de renseignements de nature très sensible au sujet de ses clients. Cette affaire révèle une fois de plus les torts que peuvent causer des technologies qui sont mal conçues. Elle fait aussi ressortir la nécessité d'établir des lois plus rigoureuses pour protéger les renseignements personnels des Canadiens, a déclaré Daniel Therrien, commissaire à la protection de la vie privée du Canada, par communiqué. L'entreprise, évidemment, a cessé d'effectuer le suivi de ces données après le début de l'enquête. Les conséquences pour ce genre d'action sur le plan législatif risquent d'être minimes, puisque rien n'est prévu dans la loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et dans les lois protégeant les renseignements personnels. Ironiquement, sans une évaluation préalable appropriée, Tim Hortons a recueilli des renseignements sensibles sur ses clients par le biais de son application sans qu'ils soient adéquatement informés ou y avaient consenti. C'est pour mettre fin à ce genre de pratique que le Québec a revu sa législation pratiquant les renseignements personnels de manière à donner plus de pouvoir aux commissions et à responsabiliser davantage les entreprises, a pour sa part déclaré Diane Poitras, présidente de la Commission d'accès à l'information du Québec. Ainsi, à compter de septembre 2023, des sanctions importantes sont prévues pour les entreprises qui n'adapteront pas des pratiques responsables, transparentes et conformes à la législation, a précisé Mme Poitras. Ironiquement, c'est seulement dans un an et demi, mais pour l'instant, Tim Hortons va juste avoir une tape sur les doigts. Ce qui est totalement un peu aberrant de faire « OK, ils vont collecter nos infos. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? On le sait pas. Pourquoi? On le sait pas. Conséquences? On le sait pas. » Ironiquement de même. Donc, idéalement, dans vos applications, vous avez toujours cette possibilité-là, justement, d'aller cocher la case « Suivre mes déplacements » uniquement lorsque l'application est ouverte. Déjà là, ça fait en sorte que l'application ne collecte pas de données sur les endroits où vous êtes en permanence. Mais après ça, si les applications sont malveillantes puis veulent votre mal, on peut pas y faire grand-chose. Bon, évidemment, à quel point c'était pour faire du mal ou juste pour enquêter de manière incognito sur vos habitudes de consommation. En même temps, c'est pas mieux. Et techniquement, ça n'était pas dans les petits caractères lorsqu'on accepte les conditions d'utilisation qu'il allait ouvrir l'application sans vous le dire. Fait qu'encore là, qui a tort, qui a raison, tout le monde est à peu près dans le tort, mais que seulement dans un an et demi, il y a des vraies conséquences, ça c'est un peu niaiseux. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Chérie, j'arrive. C'est toi qui arrives en ville et qui découvre à quel point il y a du beau et du bon talent artistique à Québec.
En semaine, dès 16h, à Chiz 94.3.
Moi, c'est Robert. J'aime vraiment Linux pis des kiwis des nerds.
Eh oui, Robert, pour citer un grand homme, l'émission la plus fruitée de la Norderie vous annonce son grand retour. Soyez des nôtres le dimanche midi pour la contre-attaque des kiwis. Sur les ondes de Chiz 94.3.